On arrive au chapitre 6 de Luc, verset 12. En ce temps-là, Jésus se rendit à la montagne pour prier, et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. Quand le jour parut, il appela ses disciples et en choisit 12, auxquels il donna le nom d'apôtres. Simon, qu'il nomma Pierre, André son frère, Jacques et Jean, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Simon, appelé le Zélote, Jude, fils de Jacques, et Judas Iscariote, qui devint traître. C'est intéressant de remarquer que cet épisode est décrit dans Matthieu. Je vous invite à vous y tourner aussi. Matthieu, chapitre 10, versets 1 à 4. Puis Jésus appela ses 12 disciples et leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Voici les noms des 12 apôtres. Le premier, Simon, appelé Pierre et André son frère, Jacques, fils de Zébédée, et Jean son frère, Philippe et Barthélemy, Thomas et Matthieu, le péager, Jacques, fils d'Alphée et Thaddée, Simon, le cananite, et Judas l'Iscariote, celui qui livra Jésus. Vous remarquez qu'il y a quelques différences dans les noms, la façon dont ils sont rapportés, et il y a même encore un autre passage dans Marc 3, versets 13 à 19. On a vu ça quand Antonio a enseigné l'évangile de Marc. Il monta ensuite sur la montagne, il appela ceux qu'il voulut, et ils vinrent à lui. Il en établit 12 pour les avoir avec lui et pour les envoyer prêcher. Avec le pouvoir de chasser les démons, il établit les 12, Simon, qu'il surnomma Pierre, Jacques, fils de Zébédée, et Jean, frère de Jacques, auquel il donna le surnom de Boanerges, qui signifie « fils du tonnerre », André, Philippe, Barthélemy, Matthieu, Thomas, Jacques, fils d'Alphée, Thaddée, Simon le cananite, et Judas Iscariote, celui qui livra Jésus. Donc, quelques détails sont précisés dans les autres évangiles, notamment le fait que Pierre et André étaient frères, ainsi que Jacques et Jean, qui étaient les enfants de Zébédée. On a donc quelques recoupements, mais on est dans l'évangile de Luc, dans une dynamique où Jésus affirme son autorité. Aujourd'hui, on est en manque de repères, on est en manque de personnes qui parlent avec autorité. Lorsqu'un ministre demande à la France d'arrêter de plaisanter du président, il y a un problème. Lorsqu'on doit faire appel au respect, c'est que le respect n'est plus là. Et je parle du président sans vouloir le mettre au pilori, c'est pas mieux dans tous les domaines de la vie, de la société. Que ce soit dans le monde artistique, dans le monde scientifique, dans le monde politique, dans le monde économique, il n'y a plus d'autorité. On s'est affranchi de toute autorité. Mai 68 est passé par là. Questionner l'autorité. Or, il y a des aspects positifs, bien entendu. Il ne s'agit pas de, sous respect d'autorité, de faire n'importe quoi. On sait où ça peut mener, malheureusement. Là, on a vu des guerres qui ont été le fruit d'une obéissance aveugle à des leaders qui n'étaient pas de bons leaders. Mais là, Jésus, après avoir affirmé son autorité sur la maladie, on a vu comment il pouvait guérir les maladies, on a vu comment il pouvait maîtriser, régner, il avait l'autorité sur la nature, il pouvait commander aux disciples de pêcher du bon côté, d'un seul coup il y avait une pêche miraculeuse. Il avait l'autorité sur la tradition, sur le sabbat. Encore une fois, ceux qui disent que Jésus n'a jamais dit être Dieu, qui se veulent seulement être témoins de l'Éternel, de Jéhovah, ceux-là n'ont rien compris à la Bible. Ils ont dû même faire une propre édition pour enlever certains passages qui leur posaient problème. Tous ces passages où les gens veulent tuer Jésus parce qu'il s'affirme être le Fils de l'homme, un titre messianique, parce qu'il dit qu'il a l'autorité sur le sabbat, tout ça, ce sont des déclarations de sa divinité que les Juifs de l'époque, notamment les chefs religieux, comprenaient très bien, et c'est la raison pour laquelle ils voulaient à tout prix le détruire, le supprimer. Il va maintenant affirmer son autorité sur l'appel de ceux qu'il appelle à son service. Il est dit au verset 12 que nous avons lu au départ de ce passage, qu'à ce moment-là, ce n'est pas seulement à une heure donnée ou à une époque de l'année, c'est ce temps-là dans son ministère. Il est temps pour lui de passer le relais à d'autres personnes. Pour l'instant, le ministère de Jésus, c'était un peu « viens et vois ». Il y a une assemblée chrétienne à Nice qui s'appelle l'assemblée de « viens et vois ». C'est toujours une bonne chose. C'est de venir voir qui est Dieu, qui est Jésus. Venir voir, mais c'est pas le tout de venir voir simplement. Parce que sinon, si on ne fait que venir voir, on reste spectateur. On reste des auditeurs, on vient parce que c'est intéressant, parce que Jésus fait des miracles, parce qu'il guérit, parce qu'il donne de la nourriture. La plupart des gens qui le suivaient dans cette partie de son ministère, ils venaient chercher les miracles. À l'époque, la vie, ça consistait essentiellement à préparer, à se procurer de la nourriture. Aujourd'hui encore, la nourriture reste une part importante de nos préoccupations. Heureusement, on peut passer moins de temps à aller chercher les grains dans les champs, à les moudre pour en faire de la farine avant de les cuire. On peut aller chez le boulanger et trouver du bon pain, normalement. Et c'était merveilleux pour eux. Il y avait cet homme qui parlait, qui disait des tas de choses, mais qui leur donnait du pain. Quand ils étaient malades, ils pouvaient les guérir. Ils venaient pour voir et pour profiter, pour être au bénéfice des bénédictions de cet homme incroyable, cet homme qui disait être Dieu, parce que c'est ce qu'il disait tout au long de sa vie sur terre. C'est pas une mauvaise chose, encore une fois. Matthieu, dans Matthieu 11, 28 à 30, a dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous, et recevez mes instructions, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez du repos pour vos âmes, car mon joug est aisé et mon fardeau léger. » C'est bien de venir à Jésus, parce qu'on n'en peut plus, parce qu'on réalise que notre vie est vide, parce qu'on s'aperçoit qu'il a des bonnes choses à nous donner, il a un sens, il va donner un sens à notre vie, il va nous permettre de faire des choses qui comptent dans l'éternité. Et en plus, il nous dit que n'est pas si difficile que ça que de le suivre, de prendre le joug, cet instrument qui permettait à deux bœufs ou deux animaux d'être liés ensemble pour tirer une charrue avec plus de force. Il dit « Mon joug est aisé, mon fardeau léger ». Mais déjà, quand il parle d'être avec lui sous un joug, il nous indique qu'il attend quelque chose de notre part. Et à la fin de l'évangile de Matthieu, c'est « Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai prescrit, et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. » Donc il y a ce double mouvement, venez à Jésus, mais allez faire des disciples, allez servir. D'autres passages nous disent, allez mourir à vous-même. Et ça, c'est un signe de maturité. C'est quand on commence à se dire, mais j'étais au bénéfice de tant de bonnes choses, maintenant je veux en redonner, je veux aller servir les autres, je veux être utilisé par lui, par Dieu, par Jésus. Et c'est toujours quelque chose de dramatique lorsque des chrétiens sont convertis depuis longtemps et tout ce qu'ils font, c'est de venir plus ou moins régulièrement au culte une fois par semaine, dans le meilleur des cas, et puis jamais s'engager à servir, jamais s'engager à donner de ce qu'ils ont reçu. On peut être sauvé, mais ne pas être d'une grande utilité pour le royaume de Dieu. C'est bien, encore une fois, de voir les gens qui s'impliquent, les gens qui servent, les gens qui vont aux réunions de prière, les gens qui donnent financièrement, les gens qui meurent à eux-mêmes. Mais l'idée, c'est pas de venir et de leur donner des notes. Il y a des fois dans l'esprit de certains chrétiens l'idée que on vient comme on va noter du patinage artistique. Et on va donner une note pour la louange, on va donner une note pour le sermon, on va donner une note pour l'accueil et la convivialité. Et puis on va même peut-être faire des guides, on va parler à nos amis chrétiens, on va dire « Ah là-bas, la louange, tu verrais, ça déménage ». Formidable. Bon, ben je vais là. Au lieu de réaliser qu'en fait, on vient pas comme spectateur, on vient pour recevoir afin de donner. Et vous connaissez tous l'histoire du lac de Galilée comparé à la mer morte. Le lac de Galilée, il reçoit les eaux du Jourdain, mais il les garde pas pour lui-même. Il les redonne. Le Jourdain continue après. Et c'est une rivière vivante. Il y a de la vie, il y a des herbes, il y a des poissons. Le lac de Galilée, il ne garde pas tout ce qu'il reçoit pour lui-même, contrairement à la mer morte. Et c'est pour ça qu'elle est morte, la mer. L'eau n'a pas d'autre solution que de s'évaporer au soleil du sud d'Israël. Alors ça amène des richesses, des minérales, mais c'est pas un endroit où on aime faire de la plongée sous-marine. Si vous êtes déjà allé en Israël, vous savez que, parce que c'est tellement concentré, l'eau s'évapore, il y a des concentrations en minéraux, en sel, variées. On flotte sans effort. On peut lire son journal et tout le monde s'amuse, mais si vous mettez de cette eau dans vos yeux, vous allez être blessé parce que c'est rempli de sel, il n'y a que de l'évaporation. Il n'y a pas de mouvement. Il y a des chrétiens, tout ce qu'ils font, c'est ils évaporent. Ils reçoivent, mais ça donne rien, ça donne pas de vie. Et donc, Jésus, il a ces gens qui le suivent. Maintenant, il veut leur dire, vous venez à moi, maintenant je vais vous envoyer. C'est ce que veut dire le mot apôtre. Apostelos en grec, ça veut dire envoyé. Simplement, c'est un envoyé, un apôtre, c'est un envoyé, c'est un émissaire, comme l'émissaire d'un roi, comme un ambassadeur. Et le mot disciple, on l'a déjà fait remarquer, c'est le mot dont nous dérivons le mot mathématique, mathétès. Mathématique, c'est la même idée, c'est ce qu'on apprend et qu'on utilise. C'est intéressant que c'est cette discipline des chiffres et de la logique qui a été choisie pour dire c'est le savoir a vraiment passé. Pourquoi ? Parce que dans les sciences humaines, les mathématiques, c'est ce qui est le plus proche de la vérité. Ça se démontre. On n'a pas utilisé le mot mathématique pour la philosophie, parce que la philosophie, c'est des idées. Chacun est libre de dire ce qu'il pense. Et puis, on n'a pas le droit de critiquer, parce que tout est possible. Mais les mathématiques, c'est difficile de réfuter. Et il y a ce lien entre les mathématiques et la vérité, qui est le même lien entre toutes les doctrines du monde et l'Évangile. L'Évangile, c'est la vérité. La parole de Dieu, c'est la vérité. Et donc, parmi les disciples, tous ces gens qui le suivaient, c'est l'idée de suivre un enseignement, de l'admettre, mais aussi de le mettre en pratique. Encore une fois, c'est pas simplement de dire « oui, je suis d'accord, mais ça change rien à ma vie ». La parole, elle est là pas pour l'information, elle est là pour la transformation de nos vies. Et si on se contente de recevoir de l'information, cette information, elle va s'évaporer comme les eaux de la mer morte. On va rester très, très amer, très salé. On sera prêt à critiquer, on aura les éléments pour juger, mais on ne fera jamais rien de positif et de riche en bénédiction pour les autres. Donc à ce moment-là de son ministère, Jésus se rend à la montagne pour prier. Et il passa toute la nuit dans la prière à Dieu. C'était son habitude. Il était sur terre comme un homme. Il était le Fils de l'homme, Fils de Dieu, Fils de l'homme à la fois. C'est un titre messianique qu'on voit dans Daniel 7, le Fils de l'homme. Et sa relation avec Dieu sur terre, elle était faite par l'intermédiaire du Saint-Esprit. Et ça, c'était pour nous montrer ce que tout homme peut faire vis-à-vis de Dieu par l'intermédiaire de l'Esprit-Saint. Il avait besoin, il s'est soumis, dans Philippiens il est expliqué qu'il s'est humilié en prenant la forme d'un homme. Il a mis un costume d'homme. C'est très humiliant, parce qu'il a créé le monde, il a créé les galaxies. Il nous a créés, il vient se mettre dans notre peau. Et parce qu'il était dans cette humilité, sa relation avec le Père, elle passait par la prière inspirée par le Saint-Esprit. Et lui qui était le Fils de Dieu, on voit qu'il priait intensément, souvent, longtemps. Là on dit « il passa toute la nuit », en grec il n'y a qu'un seul mot, qui veut dire « il a traversé la nuit avec effort, en priant ». Il met du temps à part, c'est une décision importante parce qu'il va choisir les hommes à qui il confie le message de l'Évangile. Si moi et vous sommes là aujourd'hui, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que ces hommes ont été fidèles. Ces hommes ont été fortifiés par l'Esprit Saint. Jésus les a choisis. Il a passé toute la nuit dans la prière. Est-ce que vous prenez des fois toute une nuit pour prier? Je ne dis pas de vous mettre dans votre lit et de commencer à prier, parce que généralement, on ne prie pas 10 heures ou 8 heures. Si vous avez une décision importante qui vous interpelle aujourd'hui, que ce soit pour savoir est-ce que vous allez épouser cette personne, est-ce que vous allez suivre ce cursus universitaire, vous engager dans ces études, est-ce que vous allez changer d'orientation professionnelle, est-ce que vous allez déménager quelque part. Aujourd'hui, la tendance est de taper sur Facebook, je sais pas où aller, vous avez des idées? Ou alors on le fait sur Twitter, si on est plus avancé, ou Snapchat, je sais pas, tous les réseaux, derniers réseaux sociaux. LinkedIn, c'est pas mauvais, parce qu'on peut trouver des gens qui peuvent peut-être nous aider à trouver du travail. Ça passe par vraiment le silence, la prière. Se couper du reste. C'est pour ça que souvent, le matin tôt, avant que la journée n'ait commencé, que les gens commencent à vous appeler, qu'il y ait du bruit dans la rue, que vous deviez partir au travail, c'est un bon moment. Mais vous pouvez le faire tout le temps, à tout moment. Mais quand vous avez une décision importante, j'ajouterais même, prenez le temps de prier et de jeûner. Parce qu'on parlait de la nourriture tout à l'heure, et c'est vrai qu'on passe un temps fou à préparer, à penser à ce qu'on va acheter, à l'acheter, à le préparer, à le faire cuire, à le manger, à faire la vaisselle, etc. Si vous n'avez pas de temps, jeûner va vous en donner. Et jeûner, je sais que maintenant vous serez davantage prêt à le faire, parce que dans un mois, c'est le mois de juin. C'est là qu'on va essayer de rentrer dans les maillots de bain de l'an dernier. Priez lorsque vous avez des décisions importantes. Prenez un carnet des chants, un MP3 ou une guitare si vous êtes musicien. On a le privilège ici à Nice d'être à quelques minutes de colline. On peut s'isoler, on peut se retrouver dans la nature. C'est souvent un bon endroit. On peut aller dans une église catholique. Souvent, c'est des lieux très calmes où on peut prier, même si on est protestant. Je vous invite à le faire, vous verrez, c'est incroyable. Il n'y a pas un bruit, il n'y a pas une âme, malheureusement. Souvent, ce sont des endroits vides. Il passe toute la nuit dans la prière à Dieu. C'est la traduction pourrait être aussi la prière de Dieu. C'est Dieu qui prie Dieu par le Saint-Esprit, par Dieu. Il passe toute la nuit. Et le lendemain, il a une solution. Souvent, lorsqu'on est confronté à des graves décisions, des décisions que l'on sait importantes, on hésite à dire « bon, ben, ça y est, j'ai une solution. On ne veut pas mettre la pression sur Dieu, donne-moi une réponse d'ici demain matin. » Mais si Dieu sait qu'on a besoin de cette réponse, parce qu'on a des dates limites à respecter pour s'inscrire à tel ou tel programme ou prévoir un déménagement, Dieu va répondre. Et là, le lendemain matin, il appelle ses disciples et il en choisit 12. On peut imaginer toute la nuit. Il connaissait les personnes, il avait pensé. Et oui, Pierre, j'aime bien, il est énergique, mais qu'est-ce qu'il peut dire comme bêtise? Et il ne peut pas rester silencieux, il faut toujours qu'il prenne la parole. Bon, ben, Père, tu crois que vraiment? Le plus dur, ça a dû être peut-être Judas, bien sûr. Judas. Il les a choisis. Ce qui est intéressant, c'est cette idée qu'on peut prier avec humilité, mais qu'il y a aussi un temps pour dire « bon, ben, ça y est, j'ai reçu une réponse Et maintenant, je vais foncer avec cette réponse. Foncer, c'est peut-être pas le meilleur mot, mais agir avec détermination. Parce que si on reste à se dire, ben je sais pas, maintenant me voilà, je suis parti de Nice pour Lyon, mais maintenant je suis pas sûr que j'aurais dû aller à Lyon. Peut-être ça aurait dû être Paris, ou Toulouse, ou Marseille. Ou pire encore, j'ai épousé une telle, mais je connaissais pas ses défauts, alors que peut-être que mon autre copine, vous imaginez? Le doute, la paralysie qui résulte du fait de ne pas recevoir une réponse. Quand j'ai dû moi-même prendre une décision de quitter ma vocation d'informaticien aux États-Unis pour venir travailler en France comme pasteur, j'avais jamais fait ça. J'ai traîné du pied, j'ai prié, j'ai jeûné, j'ai attendu, j'ai cherché du conseil. Et puis j'ai reprié, j'ai recherché du conseil, j'ai cherché, j'ai fait des plus, des moins. Et puis il a fallu que je me résolve au fait que oui, Dieu me disait d'aller. Et à ce moment-là, il faut prendre des étapes, il faut faire des choses. Parce que sinon, on peut rester toute sa vie à se demander si on aurait dû faire telle ou telle chose. Et la solution, entre guillemets, si vous êtes dans ce dilemme où vous êtes à peu près sûr, mais on ne sait jamais, ben vous dites à Dieu, je suis à peu près sûr, mais je ne sais jamais. Toi, tu sais, Seigneur, si je me trompe de voie, je sais que tu peux me faire revenir là où tu me veux. Ça, ça a été une libération pour moi de réaliser qu'en fait, au mieux de ce que je pouvais considérer, je pensais attirer dans une certaine voie, de dire, Seigneur, si ce n'est pas la bonne voie, je te fais confiance pour me le montrer. Mais je vais aller voir mon patron, quitter mon boulot, je vais aller commander des billets d'avion, on va partir, on va déménager. Et Jésus, c'est ce qu'il fait, il a prié, il avait sans doute peut-être quelques questions en tant qu'homme, priant par le Saint-Esprit, mais il avait reçu cette confirmation dans son cœur que c'était bon, il connaissait les douze qu'il allait prendre. Au passage, je vous fais remarquer que il a cherché des hommes. Parmi les apôtres, on sait qu'il était suivi par des femmes qui étaient des femmes remarquables. Mais ça, c'est un principe que notre société, qui influence l'Église, veut faire changer. C'est qu'on dit une femme peut être pasteur. Je suis désolé, je vois ça nulle part dans la parole de Dieu. Alors, ça ne veut pas dire qu'une femme est moindre que Dieu, mais Dieu, dans sa souveraineté, dans sa sagesse, il a estimé que les responsabilités de direction dans l'Église sont confiées aux hommes. Et je sais que j'ai prêché ça devant, en Suède. Et j'ai, en tremblant. Mais j'étais surpris de voir que lorsqu'on dit c'est pas moi, c'est pas mon idée de chauvin, c'est la parole de Dieu qui le dit. Lorsque dans Timothée et Tite, il est question de nommer des anciens, des évêques, il est dit qu'ils soient le mari d'une seule femme. Alors aujourd'hui, avec le mariage pour tous, on pourrait imaginer qu'on aille encore jusqu'à déformer ça, mais aussi merveilleuse et aussi reconnue par Jésus, Jésus a fait plus que n'importe quel autre homme pour la libération des femmes. La foi chrétienne a élevé les femmes plus haut qu'elles n'avaient jamais été considérées. Dans ces civilisations antiques, la femme, c'était du cheptel. On avait 150 chameaux et 6 femmes. Ou alors, dans la société grecque, on avait une femme pour être la mère de nos enfants, on avait une femme pour être une confidente intellectuelle, et puis on avait une femme pour les plaisirs de la chair. Donc c'était normal d'avoir trois personnes dans sa vie. Les prêtres, pas les prêtres, je veux dire les pasteurs, les responsables doivent être des hommes, mais il y a plein de place pour les femmes. Ce qu'on appelle les diacres, dont il est question dans Tite, c'est tout à fait ouvert, bien sûr. Mais je tenais à vous le faire remarquer parce que souvent les gens disent oh ben maintenant à telle église ils ont la femme du pasteur qui est pasteur aussi, c'est bien, elle est très douée et je doute pas qu'elle soit douée, mais c'est pas biblique, je suis désolé. Soit on prend ça comme la parole de Dieu, soit on dit que ça a été affecté par la mentalité chauvine macho de l'époque, de la culture des cultures de l'époque. Soit on dit non, c'est vraiment la parole de Dieu et je me fonde sur elle. Et encore une fois, c'est le principe de soumission à la vérité. Comme dans le mariage, la femme doit être soumise à son mari. Je ne peux pas croire qu'ils disent ça le jour de la fête des mères. Mais si on lit le contexte, encore une fois, si on lit toute la Bible, comme l'homme est soumis à Jésus-Christ. Quelle est la femme parmi vous qui n'aimerait pas être soumise à un homme qui se soumet à Dieu de tout son cœur? J'ai pas reçu de tomates encore, ça va, on continue. Il nomme ses disciples et on remarque que parmi les personnes qu'il va nommer, il n'y a aucun représentant de la religion de l'époque. En gros, il y avait trois groupes de personnes religieuses dans cette société. Il y avait les Esséniens, c'est ceux qui se mettaient à l'écart, qui vivaient comme des moines. Donc, ils étaient purifiés, ils se tenaient à l'écart de la souillure du monde. C'est eux qui recopiaient les textes, c'est eux qui ont écrit les textes qu'on a retrouvés dans les grottes de Qumran, pour ceux qui sont allés en Israël ou qui iront. Il y avait les Sadducéens, eux c'étaient les religieux libéraux de l'époque. Ils ne croyaient pas à la résurrection d'entre les morts, ils étaient pour la religion sans miracle, sans puissance. Mais ça leur donnait un statut dans la société auquel ils étaient très attachés. Et puis il y avait ceux qu'on connaît bien, les pharisiens. Les pharisiens, pas les parisiens. Les pharisiens, c'était eux qui étaient à l'écart. Eux aussi se tenaient à l'écart pour étudier la parole. Ils connaissaient très bien la parole de Dieu. Et aujourd'hui, l'expression pharisien, c'est toujours plus souvent utilisé dans un mauvais sens pour dire quelqu'un qui est hypocrite. Mais il y avait parmi les pharisiens de l'époque des gens comme Nicodème, qui étaient des gens qui aimaient Dieu et qui voulaient l'honorer, mais qui ne savaient pas qu'ils étaient pris dans un système qui les conduisait à l'hypocrisie. Mais on voit aucun Essénien. On voit aucun pharisien, on voit aucun sadducéen choisi par Jésus. Et ça, c'est... Je suis sûr que vous savez que Jésus ne fait pas les choses par hasard. On a l'explication, quelque part, dans 1 Corinthiens 1, si vous voulez vous tourner à ce passage, 1 Corinthiens 1, 26. On pourrait lire tout le chapitre, mais je vais juste lire ces versets. « Considérez, frères, comment vous avez été appelés. Il n'y a parmi vous ni beaucoup de sages selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. » Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Dieu a choisi les choses viles du monde, celles qu'on méprise, celles qui ne sont pas, pour réduire à rien celles qui sont, afin, et voilà le secret, que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Imaginez un chirurgien qui doit opérer d'urgence et tout ce qu'il a en sa possession, c'est un opinel, un couteau opinel, bien propre, on va dire, bien aiguisé, et il doit opérer quelqu'un dans une... Ils sont partis en randonnée pendant 3 jours, la personne tombe malade avec une appendicite, il faut faire l'ablation de l'appendice, et tout ce qu'il a, c'est un opinel. Il fait l'opération, c'est un succès. Et puis il y a l'autre cas, la cousine de cette personne qui a été opérée dans la nature va voir son docteur, elle habite à Nice, elle va voir son docteur qui l'envoie à la clinique Saint-Georges, qui prend un scanner, des IRM, des radios, etc., qui l'opère avec un instrument très précis, etc. Et même chose, la personne est guérie après cette chirurgie. Quel est le chirurgien dont on dira c'est vraiment un champion? Celui qui a utilisé toute la technologie à ras-bord et même de trop, il a contribué par tous ses scanners et toutes ses analyses et IRM à aggraver le déficit de la sécurité sociale, ou bien l'autre qui a utilisé un simple opinel pour aboutir au même résultat. Jésus aurait pu prendre, et en fait il est dit, il n'y a pas beaucoup parmi nous de sages selon la chair. Paul savait qu'il était un de ces sages selon la chair. Paul a été éduqué. Il était lui-même un pharisien, mais il était un apôtre plus tard, et c'est lui que Dieu a choisi pour remplacer Judas ou Matthias, mais on le considère comme un apôtre. Il a été témoin de la résurrection de Jésus, il a été inspiré par l'Esprit Saint, il a écrit la moitié du Nouveau Testament, 13 livres sur 27, ou 28, 27. Dieu a choisi des gens qui étaient des rebuts de la société au niveau spirituel. C'était pas des grands savants, c'était pas des gens religieux qui avaient reçu une éducation. Il a pris des hommes ordinaires. Et ça devrait vous encourager. Ça devrait tous nous encourager. Peut-être on se dit, je suis pas un spécialiste de l'hébreu antique, du grec, j'ai pas fait de théologie avancée, et pourtant je vois que je peux être utilisé comme ces hommes l'ont été. Et encore une fois, Dieu se plaît à utiliser des hommes qui n'ont aucune gloire en eux, qui n'ont aucune raison de se glorifier par leurs ressources, leurs capacités intellectuelles. Et ça marche. Ce sont ces hommes qui ont transmis l'évangile, et si vous êtes là encore une fois, si nous sommes là aujourd'hui, c'est parce que ça marche. Nous mettons les gens sur des piédestals. On dit pas piédestaux, je crois. On a tendance à vouloir glorifier. On cherche à remettre la palme d'or à quelqu'un. On veut nommer des gens, on veut leur donner des Oscars, on est toujours à chercher quelqu'un à admirer. Dieu dit non, n'admirez pas les hommes, admirez le message, admirez le Dieu qui aime et qui a confié ce message. Il choisit ces hommes, ils vont être des hommes remarquables. On a tendance à lire ces listes de noms. On en connaît quelques-uns. Pierre, Jacques, Jean, Jacques, on ne sait plus trop lequel. Thomas qui doutait. Celui qui doute. Matthieu, parce qu'il a fait l'évangile. Il ramassait les impôts. Simon, mais c'était Simon Pierre. Non, il y a Simon le Zélote. C'est quoi Zélote? Jude, fils de Jacques, Judas, Iscariote, oui, on le connaît. Mais si je vous demandais de nommer les 12, je crois qu'on aurait tous du mal à faire la liste. Et pourtant, vous savez qu'on ne va pas pouvoir les oublier toute l'éternité. Dans l'Apocalypse, chapitre 21, verset 14, la Nouvelle Jérusalem. Cette cité dans les cieux qui sera le paradis, les nouveaux cieux, la nouvelle terre. C'est intéressant d'étudier un peu ce qu'on peut connaître de notre futur dans l'éternité. Et en fait, là, on voit qu'on va habiter dans une espèce de vaisseau spatial. Ouh, temple du soleil. Temple solaire. Non, non, non. On va vivre, il y a une description. Et il y aura une ville, la Nouvelle Jérusalem, où il y aura quatre côtés, et il y aura trois portes de chaque côté. Et vous êtes peut-être demandé pourquoi il y avait 12 apôtres. C'est parce qu'il y avait 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël représentaient le peuple de l'Ancienne Alliance. Les 12 apôtres représentent les peuples de la Nouvelle Alliance. Et là, il y aura verset 12, il est dit, elle avait une grande et haute muraille, parlant de la ville sainte Jérusalem qui descendait du ciel. Elle avait 12 portes et sur les portes 12 anges. Des noms y étaient inscrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. Et puis, verset 14, la muraille de la ville avait 12 fondations et sur eux les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Vous pouvez déjà les apprendre par cœur, comme ça vous ne serez pas étonné. Quand vous circulerez, quand vous entrerez, quand vous sortirez, vous verrez, ah, je connais Thaddéus, oui, pas de problème. On en a parlé. Il est question dans le Nouveau Testament du fondement de Jésus-Christ, la pierre de l'angle, et des fondations qui sont les 12 apôtres. Ce sont des personnages qui ont été. Ils n'ont pas agi pour être connus. Souvent, aujourd'hui, les gens, de tout temps, les gens aiment recevoir la gloire. Ils aiment être connus comme des grands hommes. Les présidents américains font ouvrir des librairies à leur nom pour perpétuer leur mémoire. Si vous êtes intéressé par le foot, vous savez que Ronaldo, Cristiano, comment est-ce que je pourrais oublier un prénom portugais comme ça? Cristiano Ronaldo, c'est un grand joueur, mais il a un grand problème, il a un grand ego. Il a déjà son propre musée où on peut le voir et voir tous ses exploits. Il est peut-être remarquable, mais il serait beaucoup plus grand à mes yeux si c'était un homme qui soit aussi humble que quelqu'un comme Zinedine Zidane, par exemple, l'été, ou l'est. On va pas parler de foot. Je vois qu'il y en a qui sont pas d'accord. Surtout nos amis portugais. Pierre, on parle de lui 189 fois dans la Bible. Jean, 50 fois. Philippe 17 fois, André 13 fois, Thomas 11 fois, Matthieu, il parle pas une seule fois de, il parle deux fois de lui pour dire qu'il a été appelé, qu'il y a eu un collecteur d'impôts qui a été appelé dans son propre évangile. Ils avaient de l'humilité. Et puis il y en a plein. Tout ce qu'on sait, c'est parce que leur nom est mentionné ici. Et on pourrait faire tout un sermon sur ces apôtres dont rien n'est dit, parce que si rien n'est dit, tout est dit. Dans le sens où ça veut dire que c'était des gens absolument humbles. Le fait qu'ils soient, leur nom soit dans les fondations de la cité céleste, ça veut dire qu'ils sont pas, ils sont pas restés à glander, à rien faire. Ils ont fait ce que Dieu leur avait demandé. Et la tradition nous explique que certains de ces apôtres ont étendu l'évangile en Inde, en Iran, dans plein de pays du monde. Alors c'est pas des textes bibliques, ce sont ce qu'on appelle la tradition des pères de l'Église, des gens qui écrivaient dans les premiers siècles de l'Église, qui disaient qu'oui, qu'un tel. Et il y a aussi des livres qui expliquent comment ils ont tous terminé leur vie. Et la plupart sont morts exécutés. On a essayé d'exécuter Jean en le plongeant dans de l'huile bouillante, mais il en a été préservé. Il a pu ressortir et dire, bon, qu'est-ce qu'on mange? Peut-être la question que vous posez en ce moment, rassurez-vous. Ce qui est remarquable aussi, c'est que, on l'a déjà évoqué, ces gens étaient complètement différents les uns des autres. Il y avait des pêcheurs, certes, il y avait des frères, mais il y avait quelqu'un comme Matthieu qui était un traître, qui est un collaborateur, qui avait acheté la charge de collecteur d'impôts auprès des Romains et qui en profitait pour devenir riche en chargeant des sommes exorbitantes et en appelant les Romains à la rescousse pour se faire payer. C'est pour ça qu'il avait une grande maison où il avait invité plein de pêcheurs pour leur présenter Jésus. Il avait tout compris. Il était free. Il était libre, pour faire un peu d'anglo-saxon. Mais Simon appelait le zélote. Les zélotes, c'était justement des terroristes. Ils avaient une dague. Ils étaient connus pour leur dague. Ils avaient un petit poignard en forme de courbé, et leur plus grande joie dans la vie, c'était d'arriver derrière un soldat romain et à travers leur côte de les transpercer le cœur d'un coup de ces dagues. Ils étaient prêts à mourir pour leur foi. Massada, c'est des zélotes qui ont décidé de mettre leurs enfants, qui ont décidé de faire mourir leurs femmes et leurs enfants pour ne pas tomber dans les mains des Romains, et ils se sont donné la mort. Et on peut visiter ce site aussi, c'est spectaculaire d'imaginer ces armées romaines, mais ils étaient prêts, et donc à se battre de tout leur cœur, de donner leur vie contre les Romains. Et là, on voit comment cet homme, Simon, il est dans la même bande que ce collaborateur qui était Matthieu. Et ça, c'est le miracle de l'évangile. En Christ, il n'y a plus d'homme ni de femme, d'esclave ou de maître. Il n'y a plus de romain ou de juif. Il n'y a plus de racisme. Il n'y a plus de supériorité sociale. Il y a l'unité, la diversité. Je me réjouis toujours lorsque des personnes viennent de l'extérieur, des amis américains notamment, comme ces dernières semaines, et ils sont émerveillés de voir la diversité que nous représentons. On n'a peut-être pas tellement d'Asiatiques en ce moment. Peut-être je me trompe, mais on en a eu par moment. Si on a des Japonaises, pardon, excusez-moi. On a des personnes de tous les continents, pratiquement. L'Amérique du Sud est bien représentée, mais il n'est pas là encore. Il y a d'autres, je sais. C'est la richesse de la foi chrétienne. On est tous en un en Christ. Il n'y a plus de différence. Il n'y a plus de... Et souvent, les groupes mélangés comme ça, ce sont les plus efficaces. On ne pense pas tous de la même façon. On a des musiques qu'on préfère, on a d'autres façons de présenter les choses avec lesquelles on est confortable. Mais c'est la beauté de Christ. C'est qu'en lui, tous les hommes se retrouvent, toutes les femmes se retrouvent. Et puis, encore une fois, ça a dû être très difficile. Il y avait Judas, suivant les versions, il y a Judas, Jude ou Judas, fils de Jacques. Il y avait Jacques, le fils d'Alphée. On ne les connaît pas trop, ceux-là, mais c'est intéressant, on a plus le temps de voir un peu. Mais chacun a sa place dans le royaume de Dieu. Et on n'est pas tous des apôtres. Ces apôtres, ce sont les fondations. Leur nom est marqué, sera dans la Jérusalem céleste. Mais certains, encore aujourd'hui, ont le ministère d'apôtre. Ce sont des personnes qui sont à même d'implanter de nombreuses églises dans une nouvelle région du monde ou dans une région du monde connu. Mais on est tous appelés à servir Dieu. Et encore une fois, si ça fait un moment que vous êtes venu à Jésus parce qu'il est bon, il y a un moment où il faut venir à lui pour recevoir des instructions, et ces instructions, il nous les a déjà données. Allez, faites de toutes les nations des disciples, baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à garder tout ce que je vous ai appris. Alors chacun, on a notre part à jouer. On ne sera peut-être pas missionnaire, on ne sera peut-être pas pasteur, on ne sera peut-être pas responsable de l'école du dimanche, mais tous, autant que nous sommes, nous devons, à un moment donné, arrêter de recevoir comme la mère morte, et puis de recevoir et de donner comme la mère de Tibériade, le lac de Galilée. Ça, c'est la vie chrétienne. C'est de recevoir, mais de passer, de bénir. Sinon, on devient énorme, on devient gras. On n'arrête pas de manger, mais on donne rien en retour. Jésus nous donne cet exemple, la façon dont il choisit pour mettre au travail, et lui seul appelle. Encore une fois, ça, je terminerai avec ça. Certains pensent que je vais aller faire l'Institut de Vaux-sur-Seine et après je deviendrai pasteur. Non, vous commencez par être pasteur, vous commencez par servir dans l'Église. Vous pouvez après aller perfectionner votre grec ou pas, mais ce qui compte, c'est pas votre bagage universitaire. Ce qui compte, c'est que Dieu vous appelle à le servir. Amen. Prions. Seigneur, merci pour ces 12 que tu as nommés. Même Judas qui devait te trahir, Seigneur, on te remercie de ce que tu as fait le bon choix, puisque cette foi que tu as voulu nous laisser en héritage, en vie, elle est parvenue jusqu'à nous, Seigneur. On te demande de nous garder de toute fausse motivation pour te servir, Seigneur. Merci de te servir parce que tu es toi. Tu es un Dieu formidable. Tu es un Dieu qui nous aime. Tu es un Dieu qui mérite, même si nous n'obtenions rien de toi en échange, Seigneur. Mais tu commences par nous bénir pour que nous te connaissions. Aide-nous à toujours mieux te connaître pour mieux te servir, Seigneur. Et je te prie pour ceux qui sont confrontés à des décisions importantes, que tu les bénisses par ta paix, qu'ils prennent le temps de rechercher ta volonté dans la prière, même toute une nuit ou plusieurs fois, Seigneur. Parce que tu es un Dieu d'amour, tu veux bénir. Et Seigneur, aide-nous tous à continuer à répandre la bonne nouvelle, à répandre l'Évangile autour de nous. Sois béni, Seigneur, en ce jour, dans le nom de Jésus. Amen.